rapporte une histoire abracadabrantesque.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Je suis le bruit et la fureur.
Travaillez plus pour gagner plus.
Je vous demande de vous arrêter.
Il est là, le réchauffement climatique. Moins 3 degrés ce matin.
T'es le roi des cons, au pays des emmerdeurs.
Pas content, pas content.
On s'énerve pour rien, vous vous énervez pour rien.
Pas content.
Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience.
Tout de suite là. Ça a commencé?
Oui, ça a commencé.
L'émission a commencé?
On est à l'antenne depuis 5 minutes.
Bonsoir chers auditeurs, vous êtes bien sûr Bonjour Turbine, l'émission produite par le Media Lab en direct de Station B à Caen et en différé sur Radio Pulse à Alençon. Alors je me permets de vous le rappeler, nos émissions sont également dispo en podcast sur notre site internet medialab-normandie.fr, sur le site de la Station B et autres plateformes de streaming qui n'ont pas besoin qu'on leur fasse de publicité. Ce soir, nous fêtons la 81e de Bonjour Turbine. Levons les yeux au ciel pour s'arrêter sur les magnifiques nuées blanches que lâchent plus de 12 000 aéronefs qui survolent le territoire français chaque jour. Et oui, 10 ans après la COP21 à Paris, la France ne respecte toujours pas sa trajectoire de baisse des gaz à effet de serre, en raison notamment de son secteur des transports, médaille d'or des secteurs de l'économie française pour la production de CO2, et le seul dont les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté entre 90 et 2022, et ce sont des chiffres du gouvernement lui-même. Alors vous l'aurez compris, ce soir on se pose la question des nuisances aériennes avec notre équipe et aussi avec notre invité Jean-Louis Estival, représentant du collectif EQ. EQ, SU, on verra avec lui tout à l'heure, Environnement, Cadre de Vie, Urbanisme, et de UFCNA, l'Union Française contre les Nuisances Aéronautiques. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et d'accueillir notre invité, souhaitons la bienvenue à l'équipe du soir. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Comme d'habitude, nous avons Marion à la technique.
Salut Marion.
On t'entend pas, mais chers auditoristes, elle nous salue.
Bon, bah salut tout le monde.
Ah, c'est bon, on t'entend mieux. Dorothée, toi, qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce soir ?
Eh bien écoute, je suis allée à la rencontre des Canets pour connaître leur relation à l'avion et notamment à l'aéroport de Carpiquet et de Deauville.
Gros sujet du soir. Et nous avons également Jonathan.
Bonsoir Thomas.
Qu'as-tu préparé toi ?
Oh, une petite chronique sans prétention. J'ai essayé d'être drôle. On va voir si je suis drôle.
On va voir si tu nous fais rire. Et en co-animation ce soir, Alain, pas mal de CPV, c'est ça sur quoi ?
Ouais, des CPV, puis pour à la fin un petit quiz musical. De derrière les fagots.
Sur la thématique de l'avion. Évidemment. Donc sans plus attendre, avant d'accueillir notre invité, parlons bien, parlons peu, parlons chiffres, avec la première CPV, la capsule pédagogique et véridique d'Alain.
En 2019, avant la pandémie, il y a eu 4,5 milliards de personnes qui ont pris l'avion. Vols commerciaux, passagers. Ça ne concerne pas les avions militaires et tout ça, en plus. En 2020, il y a eu moins 60% de passagers. C'est les chiffres de l'ONU. Donc et en 2021, moins 49%. Lors de la pandémie de Covid, une prise de conscience semblait naître. Et on envisageait profiter des événements pour qu'après, on prenne moins l'avion. En 2024, le nombre de passagers est supérieur de 3,8% par rapport à 2019, niveau qu'on appelle pré-pandémique. Pour 2025, l'estimation de l'IATA, l'Association du Transport Aérien International, est de plus 8%. Le coefficient d'occupation des avions n'a jamais été aussi important. Il a dépassé 83,2%. Il semble donc qu'en termes de trafic aérien, le monde d'après soit pire que le monde d'avant. Pour s'en convaincre, si ce n'est déjà fait, quelques chiffres qui concernent seulement Airbus et Boeing. Il y a d'autres fabricants, mais c'est eux qui trustent quand même le secteur. Airbus a livré 766 avions commerciaux en 2024. En 2023, c'était 735. Le carnet de commandes d'Airbus est plein pour les 10 prochaines années. 8658 appareils, plus 12% de croissance. Je vous épargne les chiffres financiers, mais vous pouvez imaginer, c'est colossal. Le carnet de commandes de Boeing en novembre 2024, 6268 appareils. Il faudrait ajouter à ces chiffres les autres constructeurs, qui ne représentent qu'une part infime du marché, des avions. Aujourd'hui, plus de 12 000 avions Boeing circulent. C'est à peu près identique pour Airbus. Entre 2024 et 2043, Airbus prévoit un quasi-doublement de la flotte mondiale, tous confondus, soit environ 48 000 appareils. Et là, les sources, c'est France Info et Le Figaro Économique.
Merci Alain pour ces chiffres si réjouissants, ça nous met dans une bonne humeur, c'est incroyable. Alors il est enfin temps d'accueillir notre invité du jour, Jean-Louis Estival, représentant du collectif Environnement Cadre de Vie Urbanisme et du FUFCNA, Union Française contre les Nuisances Aéronautiques.
Merci de m'accueillir et je suis content de vous faire part de notre point de vue, nos points de vue, qui ne sont pas très réjouissants et qui rejoignent ce qui vient d'être dit précédemment.
Eh ben, on va en parler justement tout au long de cette émission. Alors peut-être, d'accord, avant de commencer, vous êtes un citoyen très engagé sur le sujet des nuisances aériennes auprès de deux collectifs qu'on a cités. Est-ce que peut-être vous pourriez nous les présenter ?
Oui, très, très facilement et très rapidement, pardon. L'ECU est un collectif, Environnement Cadre de Vie Urbaniste, qui a pris la succession de l'association ECU, parce que c'était assez lourd à gérer. Mais dans le même temps, il se trouve que j'étais adhérent, l'association était adhérente à l'UFCNA, l'Union Française contre les Nuisances Aéroportuaires, dont je suis le représentant accrédité pour la région normande. Et je siège également, je suis convié à assister au conseil d'administration de l'UFCNA, qui s'occupe effectivement des nuisances de toute nature, essentiellement ce qu'on appelle les aéroports ACNUSÉ, donc les gros aéroports, mais d'une certaine façon, tous les autres aéroports sont concernés par les travaux du FCNA et des contacts qu'on peut avoir avec les structures administratives.
Donc ok, c'est bon, vous êtes bien légitime pour être présent dans cette émission ce soir. Alors, vous me dites si j'ai une bêtise, on a 5 aéroports en Normandie. On a Deauville, Cancarpiquet, Le Havre-Octeville, Rouen, Cherbourg, Maupertu. Et alors celui que vous suivez de plus près, c'est celui de Cancarpiquet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce qui se joue aujourd'hui pour cet aéroport spécifiquement ?
Alors je vous précise en ce qui concerne les aéroports normands qu'il y a effectivement, les aéroports que vous avez cités existent. Il y a même je crois des aéroports à Dieppe, à Cherbourg également. Mais il y a une particularité, c'est que les 4 aérodromes que vous avez cités, donc Le Havre, Rouen, Deauville et Caen, seront gérés prochainement à compter de la rentrée prochaine par un seul les mêmes gestionnaires, étant entendu que chacune des structures aura ce qu'on appelle une délégation de service public à conclure. Alors, si vous voulez, pourquoi Carpiquet ? Parce que, je précise aussi que je suis, membre titulaire de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Caen-Carpiquet et également de Deauville-Normandie. Je vous expliquerai peut-être après, ou vous me demanderez peut-être comment fonctionne cette ECE, est plutôt mal, d'ailleurs par parenthèse. Mais si vous voulez, pourquoi Carpiquet ? Parce que on est confronté à des évolutions probablement importantes dans l'avenir, puisque le nouveau gestionnaire envisage d'augmenter la capacité de l'aérodrome, d'augmenter le nombre de passagers de 50%, donc d'aller jusqu'à 350 000, puisqu'on est à peu près à 294 000 actuellement. Et il s'y ajoute aussi d'autres informations du style de celles qu'on a vues dans la presse récemment, comme quoi Volotea allait envisager créer une structure d'accueil pour ses installations, ce qui conduit forcément à une augmentation du nombre de voyageurs, de gens qui prennent l'avion, et ils indiquent que le minimum aussi, c'est 350 000. Donc il y a une augmentation importante, si vous voulez, du trafic à venir. Et dans ces conditions, compte tenu du contexte que l'on connaît, je confirme les chiffres qui ont été donnés, je donne juste deux chiffres qui sont importants. L'empreinte carbone de l'aviation privée a augmenté de 49% depuis 2019. Donc, si vous voulez, ce contexte-là crée une inquiétude majeure en ce qui concerne les élus, puisque lors du 29 octobre-novembre de l'année dernière, les élus se sont inquiétés, ils se sont dit « mais est-ce qu'on ne peut pas maîtriser le trafic, est-ce que 5 aéroports c'est pas trop, etc., etc. Est-ce que les tracés on peut les contrôler, etc., etc. » Donc il y a des inquiétudes majeures qui sont alimentées par la situation telle que je viens de vous la décrire. Et dans ces conditions, on s'interroge sur la façon de faire pour limiter le trafic, mais surtout limiter, si vous voulez, les gaz à effet de serre, parce que d'une certaine façon, c'est beaucoup plus notre rôle d'intervenir là-dessus, ce qui signifie très clairement que si on diminue les gaz à effet de serre et si on contrôle les trajectoires, on va forcément peser sur le trafic.
Alors justement, je reviens au nom de la thématique de l'émission, ce sont les nuisances aériennes.
Oui.
On parle de gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'il y en a d'autres nuisances ?
Il y a, en matière de nuisances, il y a nuisances, comment dire, sur la qualité de l'air, bien entendu. Il y a nuisances liées au bruit. Et il y a un nouveau, ce qu'on appelle les polluants permanents, les PFSA, quelque chose comme ça, un nom comme ça, qui effectivement émergent peu à peu, et où il y a, si vous voulez, une préoccupation à avoir, notamment autour des aéroports, parce que notamment les pompiers, lorsqu'ils arrosent, si vous voulez, les pistes, il y a là-dedans des produits qui peuvent effectivement générer des difficultés sur le plan de la qualité du sol, et par conséquent polluer aussi, si vous voulez, à la fois les aéroports, mais tout ce qui tourne autour et toutes les structures qui sont autour. Donc il y a évidemment plusieurs types de nuisances, sachant qu'on ne trouve pas pour l'instant, on en reparlera peut-être, on n'a pas de solution, si vous voulez, à terme, à propos de la technologie, pour réduire cette pollution. On en reparlera parce que sur ce point, on est calé et on peut donner des éléments tout à fait précis là-dessus.
Eh bien, on en parlera en deuxième et troisième partie d'émission, justement. Et alors, juste, je voudrais revenir sur un terme. Tout à l'heure, vous avez dit que les élus commençaient à s'inquiéter. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas eux aussi qui sont à l'origine du changement de gouvernance, notamment là à Caen, Carpiquet ?
Ah ben évidemment, la majorité a opté pour ce nouveau gestionnaire. Il y a quelques élus qui se sont interrogés, il y a quelques élus qui se sont abstenus, mais si vous voulez, concrètement, dans les interventions qu'ils pourraient faire, notamment en intégrant dans ce qu'on va parler certainement de la DSP, des éléments contraignants en ce qui concerne le nouveau gestionnaire, et, c'est pas intégré. Autrement dit, il y a des protestations, voilà, nombreuses, variées, violente, mais une fois, lorsqu'on propose même des moyens d'agir, on n'est plus tout à fait au même rythme parce qu'il y a une ambiguïté d'une certaine façon, parce que l'activité aéroportuaire crée évidemment des avantages économiques et que finalement le choix est extrêmement difficile pour les élus de savoir qu'est-ce qu'on privilégie par rapport à l'autre. Il y a des arbitrages et les arbitrages ne sont pas en faveur de l'environnement.
Et alors, on s'est intéressé aux élus, mais on le disait tout à l'heure, Dorothée, toi, tu t'es intéressée aux habitants. Qu'est-ce qu'ils en pensent de cette situation ?
Oui, comme je disais tout à l'heure, je suis allée à la rencontre des Canets. Bon, en réalité, je suis allée discuter avec deux copines canaises avec mon enregistreur sous le bras pour connaître leur point de vue sur notre thème du jour. Je les ai choisies justement parce qu'elles ne sont pas spécialement militantes ni concernées par le sujet. On a fait ça en mode bout de gras aux discussions de comptoir pour alimenter nous aussi le débat de ce soir et savoir comment on peut agir aussi à titre individuel. Est-ce que c'est possible pour éviter de prendre l'avion qui pollue et dont les aéroports bétonnent aussi des zones de biodiversité ? Alors la première question que je leur ai posée, c'est de savoir si c'était important pour elles d'avoir un aéroport proche de Caen, parce que c'est la question de tous ces aéroports régionaux aussi, que ce soit à Carpiquet ou à Deauville.
Depuis que je vis en province, ça fait 10 ans, j'évite de passer par Paris. Parfois même, j'organise mes vacances en fonction des vols qu'il y a à Deauville. Alors pas Carpiquet forcément, parce que Carpiquet, c'est uniquement du vol national. Mais par exemple, de Deauville, je suis partie en Sicile, Sardaigne. S'il y a Rennes, je vais passer par Rennes ou Nantes, voilà, dans un périmètre distance égale à Paris, sauf que c'est beaucoup plus simple en province. Les aéroports, les parkings sont plus petits. Enfin, tout est beaucoup plus simple. Il y a moins de monde, donc on fait moins la queue. C'est plus humain.
Voilà, alors celle qu'on vient d'entendre, c'est Isabelle. Elle habite Varaville et vous l'aurez compris, elle prend l'avion très régulièrement. Et pour elle, l'existence des aéroports régionaux, c'est plutôt une chance. De l'autre côté, vous allez entendre Christelle. Elle vit à Caen. Elle a jamais pris l'avion, en particulier à Carpiquet, à cause des horaires, même si elle ne remet pas en cause l'existence de l'aéroport.
Chaque fois que j'ai voulu partir de Carpiquet, ça m'est arrivé parce que je donne des formations un peu dans toute la France, donc Grenoble, Strasbourg, etc. En fait, les avions ne correspondaient pas du tout aux horaires. Ce que j'ai pu remarquer par contre, c'est que quand la ligne vers la Corse s'est ouverte, beaucoup de Canets sont partis en Corse en vacances, donc ça favorise aussi une certaine forme de tourisme qui fait aussi marcher l'économie.
Et ensuite, je leur ai demandé si elles étaient sensibles aux conséquences, alors notamment sur la biodiversité de la création de cette seconde piste à Carpiquet. La première réponse va te faire plaisir. Je pense, Jean-Louis, la seconde nous met plutôt face à nos contradictions.
Ça me touche parce que je pense que de plus en plus, on bétonne des espaces verts. Alors on se plaint de chaleur dans les villes, que les températures augmentent, on se plaint de canicules, etc. Or on sait que plus on bétonne, plus la chaleur monte, puisque le béton va stocker la chaleur du soleil, à l'inverse des pelouses ou des prairies qui vont les absorber. Alors ça peut paraître une goutte d'eau dans le monde, la deuxième piste de Carpiquet, mais une goutte d'eau plus qu'une goutte d'eau plus une goutte d'eau, ben, ça fait un verre.
Oui, je suis sensible... En fait, je suis assez égoïste quoi, parce que je suis sensible à ça. Mais si on me dit, on met une deuxième piste et il y aura d'autres destinations, etc., je pense que je privilégierai les destinations.
Voilà, alors j'apprécie quand même l'honnêteté de la dernière réponse qui est assez symbolique de nos engagements écologistes, hein, qui sont souvent à géométrie variable en fonction de nos affinités. Pour finir et pour élargir le débat, on a parlé des alternatives à l'avion, puisque pour un même trajet, on a parlé de beaucoup de chiffres et on va parler de beaucoup de chiffres ce soir, donc je ne vais pas en redonner, mais le train, c'est 40 fois moins polluant que l'avion, donc c'est énorme. Or, comme Carpiquet propose notamment des vols intérieurs, on peut imaginer qu'il y a des alternatives comme le train, mais aussi le bus, le covoiturage. Oui, mais...
Je ne vais pas prendre le train pour aller à Montpellier, par exemple.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a un avion à Carpiquet qui fait qu'en Montpellier. Moi, c'est uniquement le temps, en fait, la durée du voyage, du parcours. Donc, si c'est plus rapide, je prends. Si un jour, il y a Caen en train, Montpellier, ou enfin, peu importe, le sud de la France, plus rapide que l'avion, je prendrai le train.
Voilà, la question du temps du voyage, elle revient souvent dans le choix de l'avion. Mais même quand le temps n'est pas un problème, encore faut-il qu'il y ait des trains.
Quand on regarde la carte ferroviaire, depuis la privatisation d'une partie des lignes et puis l'idée de rentabilité du train, il y a plein de petites lignes qui ont été fermées. C'est-à-dire qu'avant, on voulait faire le Tréport, on pouvait faire quand le Tréport est arrivé en train au Tréport, presque. Enfin, à l'heure actuelle, il y a plein de petites destinations où il faut complémenter. J'ai donné des formations pas très loin du Mans, mais du coup, j'étais obligée de m'y rendre en voiture parce qu'il n'y a pas de gare.
Voilà, quelques petites réflexions comme ça de comptoir par le petit bout de la lorgnette de cette vaste question de l'avion. Ce que j'en retire, c'est qu'à l'échelle individuelle, c'est quand même compliqué de changer son comportement et de renoncer à un certain confort et à nos rêves de voyage. Alors, qu'est-ce qui va nous faire changer de comportement? Je ne sais pas. Le prix, le temps, la densification des routes ferroviaires ou plus de RTT, je ne sais vraiment pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jean-Louis? Est-ce que tu penses qu'à titre individuel, il faut aussi qu'on agisse ou est-ce que de toute façon, il faut que ce soit la puissance publique, qui mette en place tout ce qu'il faut pour qu'on change nos comportements.
Eh bien, je crains que les initiatives individuelles ne soient pas suffisantes pour faire évoluer le sujet. Il faut évidemment, j'allais dire, se regrouper, mais je voudrais appeler l'attention sur les solutions alternatives. Il faut savoir que pour Caen, il y a un problème majeur, c'est le fait que le projet de LPPN n'a pas abouti.
La ligne
nouvelle Paris-Normandie, qui est dans les cartons depuis des années et qui devait normalement faire en sorte qu'on soit à proximité de Paris, beaucoup plus près que l'on est actuellement. Actuellement, quand Paris, c'est 2 heures. Ça n'a d'ailleurs pas changé. 2 heures et quart. Ça n'a d'ailleurs pas changé. Il se trouve que pendant très longtemps, j'ai pris le train. Et au moment où je travaillais, donc ça remonte, pardonnez-moi, quelques années déjà maintenant, c'est exactement le même temps. Le problème de la LPPN pose question. À partir du moment où vous avez une solution alternative, effectivement, on est en situation d'offrir quelque chose d'autre. Et par conséquent, on peut, opter pour ça. Pour le reste, c'est vraiment des questions personnelles. Est-ce que quand on part en vacances, est-ce qu'on ne peut pas prendre le temps de partir en vacances? Le voyage ne fait-il pas partie des vacances? Et par conséquent, se précipiter, j'allais dire, pour aller sur la Côte d'Azur, etc., etc., tout ça, c'est évidemment très respectable, mais il y a une question, si je puis dire, personnelle, qui consiste à dire, bon, je pars en vacances, est-ce que, véritablement, je ne peux pas prendre les vacances comme je prenais dans le temps, c'est-à-dire prendre le train à la gare de Lyon, à la gare Montparnasse, etc., etc., bénéficier, si vous voulez, du temps, de voir en fait qu'on était assez loin de son lieu, entre le lieu de villégiature et son lieu de domicile, Et ça aussi, ça fait partie des vacances. Mais maintenant, il faut être, profiter tout de suite. C'est l'immédiateté. Et ça, c'est un petit peu dommage. J'ajoute que d'ailleurs, dans l'accord de Paris, il était prévu, si je puis dire, de supprimer les avions qui, à partir du moment où il y avait un voyage qui,
un train qui
permettait de faire en sorte qu'on puisse le substituer, mais ça a été réduit et par conséquent, il est évident que ça ne présente beaucoup plus d'intérêt. Il y a très peu de lignes qui ont été supprimées.
Les lignes à moins de 2 heures, en fait.
2 heures, c'est ça.
Alain, tu voulais compléter.
Oui, moi, je ne voyage pas énormément, mais quand je voyage, j'avoue que rien que de regarder le prix du train, ça me fait très, très peur. Et c'est vrai que c'est aller à Nice en train, ça coûte plus cher que d'y aller en avion. Et moi, je vais beaucoup sur Lille et tout ça, et je trouve que le bus, pour quelqu'un qui n'est pas pressé, qui est un contemplatif, c'est très bien. C'est pas si long que ça, et c'est pas cher du tout.
Eh bien, merci Alain, merci Dorothée, merci Jean-Louis. Vous restez avec nous, on a encore beaucoup de choses à se dire. Mais avant de reprendre notre conversation, je vous propose de passer à la première pause musicale avec une proposition d'Alain.
Oui, on va écouter un chanteur québécois, Robert Charlebois, qui chantait en 1976 dans l'album Longue Distance, « Je reviendrai à Montréal ». Avec l'hiver.
On vient de s'écouter « Je reviendrai à Montréal » de Robert Charlebois, une proposition de Alain. Évidemment, vous êtes toujours sur Station B et en différé sur Radio Pulse ce soir avec l'équipe. On parle des nuisances aériennes avec un citoyen engagé, Jean-Louis Estival du collectif Environnement, Cadre de vie, Urbanisme et du UFCNA, une Union française contre les nuisances aéronautiques. Mais avant ça, avant de continuer notre échange, on accueille Jonathan, chroniqueur, qui ce soir se mue en avionophile. Alors ce terme n'existe pas et on s'en fiche, vous aurez compris le principe.
Bienvenue sur ce vol A486 en direction de Rio de Janeiro. Non, je plaisante, de Strasbourg. Belle déception pour tous.
Vous êtes juste... Belle déception, vraiment, je ne crois pas. Au cas où vous ne seriez pas au courant, vous pourrez bientôt jouir d'une ligne qu'en Strasbourg. Alors ne vous méprenez pas quand je parle de jouir, je ne parle pas de rejoindre le club des 10 000. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le club des gens qui ont fait l'amour dans l'avion. Ce dont je veux parler, c'est plutôt de cette ligne qu'en Strasbourg qui met ce fameux marché de Noël à moins d'une heure. Moins d'une heure. Alors je vous vois venir autour de la table, les écolos, verts à l'extérieur mais rouges à l'intérieur, vous allez encore dire « c'est polluant, ça coûte cher, que ça fait du bruit ». À moins que ce soit une énième idée islamo-gauchiste de supprimer les marchés de Noël, c'est ça ? Quoi ? C'est la pub ?
Vous êtes toujours sur Cockpit FM et tout de suite on vous lance un mix de réacteurs.
Comme par hasard, je me fais couper. C'est bon à la fin. Déjà qu'on ne peut plus rien dire, maintenant on ne peut plus rien faire. Les SUV, ça vous emmerde. Maintenant c'est les avions. Après ça sera quoi ? On ne pourra plus dire qu'on ne veut pas de vol sur les terrains de sport.
Je vais nous cracher ! Je vais nous cracher ! C'est clair ?
Mais non, je plaisante.
Ah, je vous ai bien eu. Non, je vais pas me cracher, ceci n'est pas une chronique d'extrême droite. Vous commencez à vous dire, mais il est devenu fou. Et non, c'est mon côté carriériste qui m'a fait faire cet odieux personnage. C'était juste au cas où pour trouver un job dans certains médias et mettre un petit coup de boost à ma carrière. Il paraît que ça marche bien d'être réac, pour ne pas dire autre chose. Enfin bref, on parlait de quoi déjà ? Ah oui, les nuances aériennes, c'est vrai. Bon alors les avions, on dit toujours que c'est plus simple, que ça va plus vite, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il faut arriver 2 heures avant, se coltiner les gens désagréables au guichet, qui peuvent décider souvent à vue de nez si votre bagage à main passera ou ne passera pas, le tout pour vous facturer un supplément. Une fois que tu as fait ça, tu dois attendre à l'embarquement, attendre, encore attendre, après tu montes dans l'avion et là tu redeviens un enfant.
Mets ta ceinture, là tu dois mettre ta ceinture, ouais tu dois mettre ta ceinture, là tu peux enlever ta ceinture, là tu dois remettre ta ceinture, là tu peux aller au toilette, là tu peux plus aller au toilette, tu ne peux plus aller au toilette, tu t'es endormi ? Tu manges pas.
Sans oublier la clim à fond, la programmation de films plus que douteuse, tu ne peux pas allonger tes jambes, les bébés qui pleurent, à ce compte-là, autant prendre un Ouigo, c'est beaucoup plus convivial. Toujours pas dégoûté par l'avion ? J'ai un autre argument écologique, sachez qu'en 2020, pendant le Covid, lorsqu'aucun avion ne circulait, les émissions de gaz à effet de serre ont été réduites de 75%. Hasard de dingue ? Je ne pense pas. Alors plutôt qu'agrandir la piste d'un aéroport et de financer un moyen de transport hyper polluant, pourquoi ne pas investir cet argent pour améliorer le secteur ferroviaire déjà existant, par exemple. Dans tous les cas, j'invite tout le monde à privilégier le train, le bus ou encore le covoiturage. D'ailleurs, le covoiturage et l'autostop, c'est le meilleur moyen de faire de belles rencontres. Et si vous voulez toujours vous envoyer en l'air, inscrivez-vous sur Tinder ou sur une appli de rencontre. C'est beaucoup moins polluant.
Mesdames et messieurs, et surtout mesdemoiselles, franchement, vous nous avez régalé pendant le vol. Tout de suite, un petit mot du pilote.
Mais j'ai trop envie de faire caca, mais je peux pas parler.
Merci Jonathan pour ta chronique avec de très bonnes refs. Le Pall Mall Show, là, c'était Jonathan Cohen, hein, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, Jonathan Cohen. Il y avait Fary aussi, mais...
Je crois qu'on l'a pas entendu. Il n'est pas parti.
C'est pas grave.
Bon, alors on continue cette émission. On en parlait en début d'émission. Il y a du mouvement sur l'aéroport Caen-Carpiquet, mais aussi à Deauville, Rouen et Le Havre. À compter du 1er juillet 2025, le groupement Alliance devient le nouveau délégataire de l'aéroport Caen-Carpiquet, auparavant géré par la Chambre de commerce et de l'industrie de Caen-Normandie. Alors, qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Alors, Pascal Sérard, maire de Carpiquet, lui dit dans l'Ouest France pas grand-chose. Visiblement, Jean-Louis Estival, vous n'êtes pas du même avis.
Mais non. D'abord, premièrement, parce que, je l'ai déjà indiqué, le nouveau délégataire va augmenter le nombre de lignes. Il parle de Dublin, Manchester, Londres, Genève, Milan, Madrid, Strasbourg et peut-être même Bordeaux. Voilà, alors on peut être évidemment très intéressé, à titre personnel, je pourrais l'être, mais à partir du moment où on augmente les lignes, vous augmentez, si vous voulez, les nuisances, puisqu'il y a évidemment beaucoup plus d'avions qui circulent. Je voudrais d'ailleurs ajouter quelque chose, un faux semblant, ou en tout cas une fausse bonne nouvelle que l'on nous diffuse parfois. On nous dit, ah oui, mais le taux de remplissage, si vous voulez, des avions est beaucoup plus élevé qu'avant, et par conséquent, si on fait le rapport entre le nombre de voyageurs et le nombre d'avions, on s'aperçoit, si je puis dire, que l'évolution n'est pas tout à fait la même. Sauf que le problème ne se pose pas en termes de nombre de voyageurs, mais il se situe, il se place en termes d'avion, de ligne. J'ajoute d'ailleurs qu'il n'y a pas que l'aviation commerciale. Hein, parce que, si vous voulez, quand vous regardez l'aérodrome de Carpiquet, en réalité, il y a des mouvements commerciaux, il y en a 3971, et des mouvements non commerciaux, c'est-à-dire toutes les autres activités, il y en a 17155. C'est la différence qu'il y a entre, d'une part, ce qu'on appelle l'aviation commerciale et l'aviation générale. Et on y reviendra certainement, parce qu'en ce qui concerne l'aviation générale, il n'y a aucune disposition qui réglemente cette activité-là. Or, c'est quoi ? C'est l'activité générale. C'est les gens qui ont des petits avions personnels, des trafics, l'aéroclub, la voltige, dont on parle beaucoup et qui nous pose problème. Et toutes ces activités-là sont difficilement, en tout cas, ne sont pas réglementées. C'est la raison pour laquelle on travaille au sein de la commission consultative, enfin, l'UFCNA travaille pour faire en sorte de tenter de maîtriser ces activités-là.
Alors, si tant est qu'il y ait une réglementation, qu'en est-il ? Elle porte sur quoi ? Sur le nombre de vols, de passagers, de...
Alors, la réglementation, je parle de l'aviation générale, donc par conséquent, pas forcément de l'aviation commerciale qui devrait être touchée, mais la réglementation à propos de l'aviation générale est extrêmement limitée. Elle est limitée par des dispositions qui prévoient la création de chartes de l'environnement, par une circulaire de 2005, si je puis dire, qui est assez peu contraignante et qui, en tout état de cause, n'est qu'une circulaire. Autrement dit, il n'y a pas de réglementation. Si bien que nous sommes amenés, l'intérieur de l'UFCNA, parce que c'est vraiment la structure association agréée qui a ses entrées, nous sommes intervenus déjà auprès des parlementaires pour qu'on fasse en sorte qu'il puisse y avoir une réglementation qui, en particulier, j'insiste là-dessus, prévoirait, j'allais dire, une perception, un captage permanent des nuisances sonores et de la qualité de l'air, donc par conséquent des outils pour vérifier et rendre objectif la perception que peuvent avoir les gens et rendre public aussi les tracés des avions, parce qu'on reste toujours dans le subjectif. Les gens disent « Ah ben non, c'est là que ça passe. Ah non, on vous dit ça. » Dernièrement, j'étais avec un maire, le maire de Brésil-sur-Oton, pour ne pas citer. Il avait amené ses concitoyens sur la piste, pas sur la piste, mais sur le tracé. Il dit « Vous vous trompez. Il passe ici, parce qu'il faut sortir de cette ambiguïté-là. Il faut trouver des solutions partagées, des solutions conçues, mises en place par ceux qui sont concernés par la question, donc les collectivités territoriales et bien entendu les riverains, pour faire en sorte qu'on ait des outils imparables et faire en sorte qu'à partir de là, et à partir de là seulement, on puisse dire « Ah non, on dépasse les taux, donc on réduit le trafic, on le supprime même éventuellement. » C'est ce qui se fait pour les véhicules automobiles dans certaines communes, enfin à Paris en particulier, où à partir du moment, si je puis dire, où on dépasse les taux, eh bien évidemment, on prend des dispositions pour réduire le trafic. Et c'est exactement la même démarche que nous avons.
Oui, parce que en fait, visiblement, la réglementation, bon, c'est l'État, c'est les élus. Vous, quel levier vous avez justement pour amener ces sujets-là ? Comment vous faites pour contrôler ? Est-ce que tout le monde est transparent dans l'histoire ? Comment tout ça se passe en fait ?
Alors, si vous voulez, il existe, en application de cette circulaire que je viens d'évoquer, ce qu'on appelle des commissions consultatives de l'environnement. Alors c'est quoi les commissions consultatives de l'environnement ? Comme son nom l'indique, elles sont consultatives. Elles sont composées de trois collèges essentiellement, les collectivités territoriales, dont les mairies, le conseil régional et le conseil départemental. Oui, conseil départemental. Donc ça fait un collège, quatre personnes. Quatre personnes, les gestionnaires d'aéroport, donc la directrice, le gestionnaire, des personnels, des représentants des avions et des associations qui sont également au nombre de quatre. Si vous voulez, cette structure-là doit être complètement équilibrée pour faire en sorte qu'il puisse y avoir un discours, j'allais dire, à égalité de chance, si vous voulez. Mais on s'aperçoit que comme il s'agit d'une commission consultative et que finalement les ordres du jour ne mentionne que, si je puis dire, le compte-rendu d'activité ou le bilan d'activité de l'aéroport, et ne traitant pas des questions qui nous concernent, par conséquent, les niveaux de qualité de l'air et les tracés, eh bien, peu à peu, on s'aperçoit qu'elle perd de son intérêt, Et vous avez un absentéisme, notamment du côté des collectivités locales et des maires, qui est significatif. Alors voilà la structure, voilà l'outil. Comment ça se passe ? Ben évidemment, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de mettre en place une charte qui corresponde à ce qu'on a demandé. C'est ce que nous avons fait, nous, l'UFCNA, par rapport à une charte qui existe dans l'instant et qui ne règle pas le problème parce qu'il ne règle que la question de la voltige sur laquelle on pourrait s'appesantir parce que c'est vraiment un problème. Donc cette charte ne correspond absolument pas aux besoins des riverains. On pourrait le détailler, je pourrais vous donner des exemples là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle en commission consultative, nous avons proposé un outil qu'on a mis au point au niveau national, qui est un outil pédagogique pour mettre en place une charte qui corresponde à nos besoins. Mais naturellement, on n'est pas écouté. Qu'est-ce qu'elle comprend essentiellement, cette charte ? C'est ce que je viens de vous dire tout de suite, des relevés, des outils de relevés sur le site, à la fois de la qualité de l'air, à la fois du niveau de bruit, une maîtrise des tracés. Tout ça existe. Hein. Je veux dire, par là, il suffit de faire le nécessaire pour que ça puisse se faire. Il faut rappeler d'ailleurs au passage que ces recommandations, que ces actions que nous développons sont, recommandées par la CNUSA. Qu'est-ce que c'est que la CNUSA ? C'est une autorité administrative qui est en charge de contrôler les nuisances aéroportuaires et qui est une structure nationale qui essentiellement gère ce qu'on appelle les aéroports ACNUC, c'est-à-dire les gros aéroports, et ils ont pour mission en particulier d'établir des amendes pour les aéroports qui ne respectent pas, pour les avions qui ne respectent pas les règles. Mais évidemment, nous ne sommes pas concernés par la CNUSA, mais elle a des recommandations en matière de bruit, et le document que nous avons établi, et qui était soumis à la fois à l'aéroport de Cancarpiquet, mais également à Deauville, n'a évidemment pas reçu d'écho, mais il a été quand même vu par la CNUSA, qui, le président de l'époque, avait dit « Écoutez, c'est un outil intéressant, dites-nous ce que vous avez pu obtenir par rapport à ça, et ça peut nous aider. » Mais malheureusement, ça n'aboutit pas. Donc, quelle est la solution ?
C'était ma question.
Quelle est la solution ?
Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? D'abord, ce qu'on essaye de faire, c'est d'intervenir auprès des députés pour essayer de réglementer. Mais ça, c'est une solution un peu compliquée. On n'a pas de recours. À partir du moment où l'aspect conventionnel, contractuel ne fonctionne pas, on est obligé, si vous voulez, soit de trouver du législatif, soit de faire des procédures. Et qu'est-ce qui se passe en particulier ? Dernièrement, l'aéroport de Beauvais, l'association de l'aéroport de Beauvais, a engagé une action pour s'opposer à l'évolution de l'aéroport parce qu'elle ne respectait pas les accords de Paris. C'est une procédure qui est tout à fait récente, c'est l'aéroport de Beauvais-Tillet. Et si par hypothèse on était dans cette situation-là, eh bien peut-être qu'on s'engagerait dans cette voie. J'ajoute qu'en plus, la Cour des comptes vient de se saisir du dossier pour vérifier si les politiques publiques étaient de nature à régler la question des nuisances sonores. Ce n'est pas tout de suite qu'on aura le résultat, mais c'est un outil supplémentaire qui peut venir en appui de nos démarches. Mais tout cela, si vous voulez, résulte du fait qu'on n'aboutit pas sur le plan conventionnel contractuel, mais nous formons l'espoir avec M. Tellier, qui est le président, qui est le directeur général de la CELAR. Et par rapport, si je puis dire, aux démarches que l'on a faites et d'évolution possible, nous espérons avec M. Tellier nouer des contacts pour faire en sorte, parce qu'il a plusieurs aéroports, il gère la CELAR, gère Poitiers, Vannes, un certain nombre d'aéroports régionaux. Et ils ont, notamment à Vannes, des outils de charte qui paraissent intéressants. Et dans ces conditions, on vient d'écrire récemment à M. Tellier pour lui dire, écoutez, d'abord, on veut vous rencontrer, parce que, si je puis dire, si on établit une charte, il ne faut pas faire une charte dans votre dos, il faut le faire avec vous. Et c'est la raison pour laquelle, la dernière commission consultative, je n'ai pas assisté, parce que d'abord, ce qu'on proposait n'avait rien à voir avec ce qui était nécessaire. Et parce que M. Tellier n'étant pas là, enfin la CELAR n'étant pas là, il me paraît difficile de conclure une charte alors que l'exploitant n'est pas signataire.
Et alors, nous, comment, citoyens qui ne sommes pas aussi bien informés que vous, on peut, entre guillemets, se mobiliser aussi en tant que citoyen ?
Eh bien, la solution, c'est de créer des associations, de rentrer dans des structures existantes. On peut évidemment aller protester sur les aéroports, comme ça s'est produit quand il y a eu le projet d'allongement de la piste de l'aéroport de Caen-Carpiquet, où il y a eu des manifestations extrêmement fortes, extrêmement dangereuses, même par certains côtés. Nous ne sommes pas favorables de cette façon-là. Je pense qu'il y a une possibilité de négocier. Je pense qu'il faut poser le problème à nos élus. On est l'année prochaine en élection municipale. La mission qui est ici, normalement, si on a des gens qui sont intéressés, est reçue par tous les conseillers communautaires de Caen-la-Mer qui sont aussi maires de communes.
Et auditeurs de Station B. Donc
et j'espère bien. En tout cas, ils ont été informés. Et dans ces conditions, c'est à eux de prendre la responsabilité. Voilà la situation. Qu'est-ce que vous faites? Et de ce point de vue, on peut parfaitement le faire en intégrant dans la DSP, dans la délégation de services publics, c'est-à-dire le contrat qui lie Caen-la-Mer avec le gestionnaire. On peut introduire des éléments qui obligent, si je puis dire, le gestionnaire à agir comme il le veut. Mais il y a un certain nombre de choses que le gestionnaire doit pouvoir faire à son initiative. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons rentrer en contact avec M. Tellier. La lettre est partie au début de la semaine pour faire en sorte de voir comment on peut gérer ça, car le contrat vaut toujours mieux que le règlement et encore mieux que le jugement ou le procès. Voilà.
On est d'accord. Alors, je vous propose de rester toujours avec nous, mais cette fois-ci, on va tourner un petit peu. On accueille David en plateau. Bonsoir, David.
Bonsoir.
Alors, toi, tu nous as prévu une petite chronique humoristique, donc quand la réalité dépasse la fiction. C'est un peu ça.
Disons que je vais revenir sur une affaire. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, revenons dans les années 70 pour évoquer avec vous l'affaire des avions renifleurs. Un scandale politico-financier, elle fut victime d'une escroquerie. Loin de moi de l'idée de les plaindre. Je vous résume l'affaire. Un agriculteur italien, Aldo Bonazzoli, et un aristocrate belge, Alain de Villegas, par l'intermédiaire d'un avocat français, Jean Violet, prétendent et réussissent à faire croire que leur avion est capable de sentir les gisements de pétrole. Elf, qui sans lécher les babines, déboursera 900 millions de francs pour se procurer les fameux avions. Dans les années 80, la presse s'empare de cette affaire par l'intermédiaire du Canard Enchaîné et rend l'affaire publique. Ce qui va créer un véritable bazar puisque les noms de Raymond Barre et Valéry Giscard d'Estaing sont cités dans cette affaire. L'enquête parlementaire innocentera l'ancien président de la République Giscard. Je me souviens avoir pensé que les dirigeants d'Elf étaient légèrement naïfs de croire qu'un avion pouvait sentir quoi que ce soit. Ce qui nous donne un aperçu de la lucidité de ces décideurs de haut vol. Des avions renifleurs. Quand j'avais entendu cela, mon imagination avait pris son envol. Est-ce que les avions reniflaient le pétrole comme les cochons du Périgord se reniflent la truffe ? C'était merveilleux. Ils allaient peut-être pouvoir détecter des trésors enfouis depuis des siècles. Flairer la piste des bandits, nous flairer d'en haut. Bientôt, y aurait-il des avions parleurs qui nous donneraient des consignes du ciel ? Tsunami, tous aux abris ! Tiramitsu, tous à table ! Et les avions à l'heure, auraient-ils la voix de Jean-Pierre Bacri ? Les avions planeurs, prenaient-ils de la drogue ? Le ciel devenait un formidable champ des possibles. J'imaginais un Airbus A380 en train de draguer un Boeing 747. Tu sais ce que j'aime chez toi, c'est tes ailes majestueuses. Et moi, c'est ta queue. Comme chacun sait, les avions aiment bien s'envoyer en l'air. Et si l'on admet qu'ils sont capables de sentir du pétrole, alors peut-être aussi ont-ils d'autres sens cachés, et même une conscience. J'ai déniché un vieux grimoire intitulé « Les mémoires d'un rafale dépressif à l'arrêt ». Il disait « Non seulement je pollue, je contamine la population, mais en plus on me demande d'aller bombarder des gens que je connais même pas. Non, ce n'est plus possible. Je reste sur le tarmac. Je veux que ma vieille carlingue termine sa vie au milieu des Zadis de Notre-Dame-des-Landes. » Un écolo, quoi. Ben, dites donc. Si Lamartine m'avait dit que les avions ont une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer.
Je crois qu'après avoir vu ça.
Demain, je vais de ce pas à Carpiquet, j'irai à l'aéroport, m'entretenir avec les avions et je leur dirai qu'il n'est pas nécessaire de voler pour traverser les nuages, pour voyager. Puisque vous êtes capable de sentir chez vous, restez sur la piste à écouter et à humer les parfums du printemps.
Merci beaucoup David, et justement allez, tu nous as mis en bouche, il est venu le temps de passer à notre deuxième et dernière pause musicale avant de, retrouver Jean-Louis Estival. Alain, que nous proposes-tu pour rester en lien avec la thématique du jour ?
Eh ben, je vous propose Lenny Kravitz qui en 98 dans son album 5 chantait Fly Away. De s'écouter Lenny Kravitz, Fly Away. Vous êtes toujours en direct sur Station B. Bah ouais, chers auditeurs, ça bouge pas, c'est tous les jeudis de 19h à 20h. Et si vous êtes à Alençon et que vous nous écoutez, c'est qu'on est mardi et qu'il est 19h30, bien passé sur Radio Pulse. Alors ce soir, nous abordons le sujet des nuisances aériennes et dans cette dernière partie, nous allons explorer les futurs possibles. Est-ce que la technologie peut rendre plus vertueux ces gros bolides ? Eh bien, Alain s'est posé la question pour la dernière CPV de l'émission. Comment réduire l'empreinte carbone du secteur aviation ? La fabrication des avions n'est pas prise en compte.
Alors commençons par l'avion électrique.
Alors, il y a plusieurs projets en cours. Le problème, c'est l'autonomie qui est réduite. Peut-être pour des avions d'affaires, c'est-à-dire des avions avec peu de gens dedans. On a des projets qui tournent jusqu'à 9 passagers. Sinon, on a un projet qui s'appelle Alice Déviation qui fait une autonomie de 250 minutes, 463 km, 9 passagers. Ça va voir le jour peut-être en 2027. En Suède, il y a un projet qui s'appelle Earth Aerospace ES-30 pour 2028. 30 passagers, 200 km d'autonomie, recharge en 30 minutes, 400 km avec des moteurs hybrides. C'est bien ces avions, ça nécessite une piste courte, 1100 mètres. Mais ça nécessite aussi que les aéroports s'équipent pour recharger les batteries. Un projet en France qui s'appelle Aura Aero pour 2028, qui serait hybride avec 19 passagers.
Et alors posons-nous la question de l'hydrogène.
Ah, l'hydrogène. Airbus avait prévu pour 2028 de lancer un projet qui aurait vu le jour en 2035. C'est retardé, il n'y a pas de date qui sont données. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pollution d'hydrogène est très polluante ou très gourmande en énergie électrique, éolienne ou nucléaire.
Et alors, côté carburant décarboné ?
Alors, les carburants durables, SAF, sont produits à partir de déchets et résidus, huile alimentaire, par exemple, les frites, par exemple. Actuellement, ça représente 2% de la livraison aux aéroports depuis janvier 2025. Ce qui est prévu, ce qui est demandé par l'État, c'est 6% en 2030, 20% en 2035 et 70% en 2050. Il va falloir bouffer des frites. Le règlement européen 2023-2405, qui s'appelle Refuel UE Aviation, impose cette réglementation.
Et alors, au niveau de la compensation crédit carbone ?
Alors là, ça me fait bien rigoler. Moi, les compagnies aériennes doivent participer au financement de projets favorisant le stockage du CO2 dans les sols, reforestation, agriculture bio. Un arrêté du 4 juin 2023. Mais ça, c'est une réglementation européenne. C'est-à-dire que quand on voit ce qui se passe en ce moment, on a peut-être des craintes à avoir. Est-ce que l'allongement d'une piste utilisant des surfaces agricoles est compensé, sachant que ça ne relève pas des compagnies aériennes, mais des prestataires ou des communes ?
Alors, Jean-Louis Estival, notre invité, est-ce que vous avez eu vent, sans mauvais jeu de mots, de technologie aéronautique qui nous permettrait de continuer à voler comme des cochons ? Ou alors la solution Jean-Marc Jancovici proposait un quota de vol par habitant ?
Alors, si vous voulez, j'en ai pas parlé, mais je pense que ça peut être une entrée en matière intéressante. On a parlé, si vous voulez, d'un avion électrique pour faire de la voltige. La voltige nous crée d'immenses problèmes sur l'aéroport de Coquart-Piquet. Pour aller à l'essentiel, ils ont l'autorisation, enfin, ils sont interdits de vol. Antérieurement, le samedi, dimanche et jour de fête, de 12h à 15h, ça a été rectifié. On prévoit que le dimanche après-midi, les avions n'auront pas à voler, sauf que le problème, c'est que pendant que les gens sont sur leur terrasse, les avions volent au moment où, précisément, ils sont en train de prendre leur café dont ils ne collent pas. Donc, on a parlé d'avions électriques. C'est pas très sérieux parce qu'il faut évidemment de la puissance pour faire les évolutions et par conséquent, l'avion électrique, en tout état de cause, on ne sait pas très bien s'il embarquerait des batteries, mais je vois pas très bien d'abord comment on pourrait les éliminer par la suite et est-ce que précisément les batteries ne risquent pas de laisser les avions cloués au sol. Ça, c'est une première solution. L'avion électrique, c'est pas pour tout de suite, même si effectivement, il y a des études. Reste deux techniques qui viennent d'être évoquées. La question du projet, par exemple, du projet Restart, qui effectivement prévoit du kérosène durable, c'est une solution qui n'est pas pour tout de suite et surtout qui interpelle beaucoup les associations environnementales parce qu'il y a des questions, si je puis dire, d'eau. Importance de beaucoup d'eau pour aboutir au résultat et beaucoup d'électricité aussi. C'est-à-dire que finalement, on déplace un peu le problème. En essayant de faire des appareils de ce style, on déplace la difficulté. Reste l'hydrogène. L'hydrogène, ça vient d'être dit. Airbus a un projet, mais malheureusement, ce n'est pas pour tout de suite parce que le projet a été remis à plus tard et on prévoit éventuellement, peut-être en 2038 ou même même avant. Entre-temps, d'ici là, on subit les nuisances. Il faut donc régler le problème, en tout cas aussi rapidement que possible. En tout cas, faire en sorte que les populations ne soient pas altérées par les bruits et la qualité de l'air, parce que les dommages collatéraux, et notamment sur les questions de santé, on pourrait en discuter. Ça pourrait faire l'objet d'un autre débat. Il est extrêmement sévère. Et dans ces conditions, il faut choisir, je ne dirais pas boire ou conduire, mais en tout cas, faire de l'avion, avoir des avions à proximité, et le risque est grand d'avoir des problèmes cardiovasculaires ou un tas de choses comme ça. Voilà, donc sur les projets, ils existent, les gens travaillent, mais ce n'est pas pour tout de suite, donc il faut pour l'instant régler le problème. Par rapport à une augmentation sensible du trafic, quand même.
Alors, en rebond avec ce que vous venez de me dire, est-ce que Alain a évoqué, je laisse la parole à Floriane qui va évoquer le mirage de l'avion vert.
Eh oui, la transition écologique et énergétique du secteur aérien, réalité ou écran de fumée. Commençons d'abord par un petit rappel de faits et de chiffres. Le transport aérien est le mode le plus néfaste pour le climat, entre 2 à 3% des émissions de CO2 dans le monde. Alors dit comme ça, ça paraît pas tant que ça, mais c'est sans compter tous les effets non CO2 liés aux oxydes d'azote, à la vapeur d'eau et aux particules. Vous savez, ces petits nuages, ces petites tracées qu'on voit dans le ciel, qui elles aussi malheureusement participent largement au réchauffement climatique global. Bref, je ne rentrerai pas dans les considérations techniques, mais hormis les climato-sceptiques, on peut quand même se dire que tout le monde s'accorde sur au moins une chose, la nécessaire décarbonation du secteur. L'Organisation de l'aviation civile internationale s'est d'ailleurs fixé un objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Chouette. Alors, est-ce qu'on est sauvé ? En tout cas, tout le monde s'y met et les acteurs du secteur nous agitent déjà la promesse de l'avion vert sous le nez. On en a parlé tout à l'heure, amélioration technique, développement des biocarburants, avions à hydrogène ou électrifiés. Les solutions, oui, il y a des pistes, mais est-ce qu'elles seront suffisantes ? Et là, pour le coup, rien de moins sûr. Car selon un rapport de 2021 de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, tout l'enjeu réside dans la capacité de l'aviation à décarboner l'entièreté de sa flotte, et ce, à une vitesse suffisante. Et pour cause, les améliorations incrémentales et opérationnelles concernant l'efficacité énergétique ne permettent pas une réduction suffisamment rapide des émissions. Les innovations de rupture, comme l'avion à hydrogène, ne sont pas attendues avant 2030. À noter d'ailleurs, plus de 95% de l'hydrogène produit dans le monde est encore issu des énergies fossiles. Mmh. Idem pour l'électricité. Les solutions envisagées ne deviendront intéressantes qu'à partir du moment où le mix électrique mondial sera devenu bas carbone, donc pas avant plusieurs décennies. Second frein, les limites en ressources énergétiques qui s'appliquent à l'ensemble des carburants alternatifs. La demande en électricité bas carbone, elle encore, pourrait se heurter à des limites de disponibilité. Si l'on en croit certains scénarios pour l'aviation en 2050, le secteur aérien aurait besoin de plus de 30% de la totalité de l'électricité produite au niveau mondial. Bref, vous commencez à entrevoir l'impasse, l'avion vert, ça vole haut, mais pas assez vite. Autre solution, le faire atterrir. Comprenez, envisager une diminution drastique du trafic. Sauf que là, ça coince. Car si les avions sont aujourd'hui 5 fois plus efficaces d'un point de vue énergétique qu'il y a 50 ans, le trafic, lui, a été multiplié par 13. Et les prévisions tablent quant à elles sur une croissance du trafic de 3 ou 3,5% dans les prochaines années. Et en même temps, ça se comprend, faut dire que l'avion, on ne peut plus vraiment s'en passer. Sans compter sur le transport de marchandises, par « on », j'entends les quelques petits 10% de la population mondiale l'ayant déjà pris. Vous voyez où je veux en venir ? Non ? Allez, juste un petit chiffre. Rien qu'au niveau européen, l'aviation représente 41% de l'empreinte carbone des 1% les plus riches et 51% des plus pauvres ne prennent pas l'avion. Et ce sont surtout ceux qui ne le prennent pas qui en subissent les conséquences. Nuisance des infrastructures aéroportuaires et effets négatifs sur la santé, accaparement des terres, autant pour la construction ou l'agrandissement d'aéroports que pour la production d'agrocarburants. Et j'en passe. Alors, peut-être qu'avant de voir tout vert, nous devrions peut-être commencer par remettre en cause les normes économiques, sociales et professionnelles qui encouragent un usage excessif du transport aérien. Car si pour certains, l'avion est un prérequis à des sociétés plurielles ouvertes, n'oublions pas que la justice climatique et environnementale, elle aussi, en est un autre.
Merci beaucoup Floriane. Waouh, c'est vachement réjouissant de terminer cette émission comme ça. Jean-Louis, on aurait dû faire une émission de deux heures parce qu'il y a tellement à dire. Comment on peut faire pour vous suivre, accompagner des futures mobilisations peut-être ?
Pour le reste, c'est l'action du quotidien et l'action dans les commissions consultatives d'environnement. Par conséquent, il faut avoir des dossiers solides pour pouvoir être en situation de résister à la direction générale de l'aviation civile qui est un adversaire coriace. Allez. pour être sympa.
C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Et puis à minima, voilà, si on doit voyager cet été, bah, on prend le camion, la voiture, on dort en camping, on prend le temps de voyager. On a retenu ça, en tout cas. Merci beaucoup pour votre venue et bravo pour votre investissement. Merci à Marion à la technique, merci à Jonathan, Dorothée, David, Alain, Florian, Jean-Louis, Rémi qui a vachement bien participé, à Thémis qui était là en public aussi. Vous savez que vous pouvez nous retrouver sur les podcasts, le site de la radio stationb.fr, Audioblog Arte et les autres plateformes de streaming dont on taira le nom. Et puis bien, on vous dit rendez-vous à dans deux semaines. Voilà.
Avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Je dis merci à la vie, je dis merci, je chante la vie, je danse.
On a repoussé les limites, là.
Nous invitons les voyageurs à sauter du train.
Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu.
Merci.
Au revoir.